Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
À l'écoute des programmes de Studio Tamani, il est 8h à Bamako. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici le journal. Au sommaire de cette matinale, les réactions contre l'avant-projet de découpage administratif continuent dans le pays. Les concertations du 13 au 17 novembre prochain vont-elles calmer la tension ? Élément de réponse dans ce journal. Comment lutter contre la fraude et les pratiques de concurrence déloyale ? Une rencontre sur la question s'est tenue ce mercredi à Bamako. Dans la région de Kaye, plus de 200 personnes ont été en contact avec la viande d'une vache contaminée par la rage dans la localité de Takombele, commune de Soubidjania. La direction régionale de la santé rassure qu'une campagne de vaccination est en cours dans la zone. Le développement de ce titre avec Sikou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'avant-projet de découpage territorial continue de susciter des réactions à travers le pays. Pour apaiser le climat social, les autorités maliennes organiseront des conférences régionales autour de ce projet du 13 au 17 novembre prochain. Pourquoi tant de manifestations contre ce projet de découpage? Est-ce que les concertations locales des communautés calmeront les tensions? Les réponses de ces questions dans ce reportage signé Adama Amadou Aïdara.
Des organisations de la société civile protestent et s'insurgent contre ce nouveau projet de découpage administratif. Selon elles, ce projet de découpage administratif est inopportun, inadéquat et source de tensions sociales. Le président de cette coalition, dénommée Igda Malitikla, estime qu'il est temps de faire face aux réalités de sous-développement et d'insécurité actuelle du pays. Abdelkader Maïga.
Quand on regarde le contenu du projet de réorganisation administrative, on se rend compte qu'on fait la part belle à certaines régions du Nord ou à certains groupes armés. C'est ce qui est encore plus déplorable. Maintenant, il y a déjà des responsables d'autres régions comme Sikasso qui commencent déjà à se plaindre. Ça ne nous avance en rien, ça ne garantit pas la paix, ça ne garantit pas la cohésion sociale. Et moi, je dis qu'il faut tout simplement rejeter même ces concertations et ce découpage.
De son côté, le gouvernement estime que cette réorganisation du territoire est une nécessité pour le rétablissement de la sécurité et le rapprochement des services sociaux de base des communautés et l'équilibre du développement. Ces représentants estiment que les conférences régionales permettront aux populations de faire des recommandations et des suggestions pour la réussite du projet. Souleymane Amadou Sangaré, directeur général de l'administration des territoires.
À partir du moment où l'opportunité est donnée à cette partie de la population pour être au niveau des conférences régionales, pour expliquer pourquoi cela, pourquoi nous ne faisons pas cela, moi je pense quand même que le processus est participatif. Et l'État veut vraiment qu'il y ait la stabilité, qui est la sécurité et qui est le développement. Ce projet, au terme des conférences régionales, quand ce sera adopté, à ce moment-là, ce sera davantage de présence de l'État, des forces armées et de sécurité seront aussi présentes au niveau de ces circonscriptions.
Selon certains observateurs, la démarche adoptée pour le gouvernement n'est pas inclusive ni constructive. Selon eux, le temps imparti aux concertations locales n'est pas suffisant pour recueillir les recommandations des populations sur l'ensemble du territoire national. Mamadou Diouara, sociologue enseignant à l'Université de Bamako.
Concertation organisée en une, deux semaines, et ça va être un processus bâclé dans lequel des gens vont venir, 10 à 15 personnes vont avoir la parole pendant 5 à 10 minutes, et puis après, un comité va décider de sortir des rapports, et après on va dire, bon, on a fait des concertations, le peuple a validé. C'est ça le processus vers lequel on vient de partir. Si le gouvernement s'amuse à un tel jeu, ça va être extrêmement dangereux pour l'équilibre national humain.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Comment lutter contre la fraude et les pratiques de concurrence déloyale? Cette question était ce mercredi au centre d'une rencontre à Bamako. Selon le ministre en charge du commerce et de la concurrence, pour assainir le marché, les autorités ont mis en place un comité interministériel de lutte contre la fraude et la concurrence déloyale. Al-Hassan Ag Ahmed Moussa, ministre du commerce et de la concurrence, au micro de Maman Babakunta.
La fraude et la concurrence déloyale ne concernent pas seulement la contrebande. Aujourd'hui, elle se matérialise à travers la falsification des documents commerciaux, la minoration des valeurs, les changements de nature de produits ou de positions tarifaires. Cette forme de fraude dite intellectuelle prend de plus en plus de l'ampleur dans les domaines des transactions commerciales. Dans ce contexte, il convient de renforcer les moyens d'intervention des structures et de rendre opérationnelle l'interconnexion entre la direction générale du commerce et de la consommation et la direction générale de la douane afin de permettre la conciliation entre les intentions d'importation et les déclarations en douane. Cette conciliation constitue une approche efficace de lutte contre la fraude dite intellectuelle ou documentaire.
Sur un tout autre chapitre à présent, la première édition du Forum international sur la sécurité et la santé au travail a débuté hier à Bamako. Cette rencontre qui prend fin aujourd'hui a pour objectif d'examiner les différentes difficultés des travailleurs des entreprises privées ou ceux des services publics. La session a regroupé plusieurs experts venus de la sous-région. Marin Fatraoré, directeur général du groupe Sahier Emploi, au micro de Omar Waïgalo.
Les difficultés, il y en a de deux ordres. D'abord, nous sommes en Afrique. On a des textes là, mais l'application dans la réalité pose problème. Il y a une obligation légale pour tous les employeurs de créer des comités d'hygiène et de sécurité. Bon, si ces comités ne sont pas créés, ce qui veut dire qu'il y a un problème de prise en charge des risques professionnels. Je crois que la réponse à ces questionnements-là, ça nous permet d'évaluer le niveau de prise en charge des risques professionnels dans nos entreprises. Ça vise à sensibiliser les différents acteurs, notamment le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, à la gestion des risques professionnels. Le gouvernement est là pour légiférer et contrôler l'application des lois et aussi les employeurs sont là pour créer les conditions qu'il faut pour que cela aille. Les travailleurs sont là pour travailler dans un cadre sécurisé, mais aussi ils doivent veiller à ce que les conditions soient là, qu'ils soient aussi des éléments d'alerte sur les risques.
8h06 à Oussoubidjania dans la région de Kay. La direction régionale de la santé de Kay poursuit la campagne de vaccination contre la rage à Takombele dans le district sanitaire de Oussoubidjania, cercle de Bafoulabé. Le mois dernier, 221 personnes ont été en contact avec la viande d'une vache atteinte de rage. Selon le directeur régional de la santé, près d'une centaine de personnes parmi elles ont été déjà vaccinées. Il assure que des doses supplémentaires ont été envoyé sur place pour vacciner les autres personnes. Docteur Cheikh Amadou Tidiane Traoré, au micro de notre correspondant Kay Barka Fofana.
Les populations de Takombele, qui est un village de l'aire de Touba, dans le district sanitaire de Oussoubidjania, cercle de Bafoulabé, donc abattu une vache qui avait été mordue auparavant par un chien enragé. Il y a en tout 221 personnes qui ont été en contact avec la viande. Donc, dès que nous avons eu l'information, nous avons vite accouru. Il y avait seulement une quantité de 100 doses que nous avons apportées. Et donc, parmi les 100 doses, nous avons trié parce que les gens les plus exposés sont surtout ceux-là qui ont travaillé avec la viande fraîche. Donc, nous avons priorisé et trié ceux-là qui seraient à risque. Et 94 personnes ont été vaccinées depuis le 12 octobre.
Faisons à présent un tour dans les établissements scolaires où le port de l'uniforme scolaire connaît aujourd'hui plusieurs obstacles. Rares sont les élèves qui s'habillent en style décent dans certaines écoles, constatent certains observateurs. À qui la faute? Que faut-il faire et comment faire respecter le port d'une tenue décente à l'école? La réponse à ces questions avec Khalifa Goïta.
Les élèves introduits dans de nombreux établissements scolaires de la capitale estiment que l'habillement décent dans une école n'est qu'une question de choix et de génération. Toutefois, et malgré tout, certains parmi eux reconnaissent l'importance du port de la tenue scolaire.
Je n'aime pas porter la tenue parce que j'ai plusieurs habits.
Tout mon tenue, c'est du pantalon et des boudous. C'est de la génération.
J'aime le style des rappeurs.
Pourtant, dans certains établissements, ces actes sont bannis et le port de la tenue scolaire est obligatoire pour tous. Madame Bagayogo Ma Aïssata Bengali, censeur du lycée Ba Aminata Diallo.
On a imposé ces modèles qu'il n'y a pas de discrimination entre les élèves. Ça les protège. Il y a des tenues qu'elles portent qui ne sont pas des tenues et décentes.
Face à cette situation, les avis des parents restent partagés.
Pour avant qu'ils partent à l'école, il faut que les parents contrôlent leurs effets.
Il y a souvent des parents qui sont pauvres. Ils ont des difficultés à payer la tenue correctement aux enfants.
Quelqu'un qui peut se permettre de porter des tenues vestimentaires non décentes, il est capable de payer les tenues pour quand même aller à l'école. Donc, ce n'est pas un manque de moyens.
Certains sociologues déplorent une fuite de responsabilité des parents d'élèves et appellent l'État à prendre des mesures. Docteur Breyma Elidiko, sociologue.
Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc, une des choses très simples que l'État peut faire, c'est d'instituer la tenue scolaire. Et la deuxième chose, c'est différentes écoles interdisent certains types d'habillements.
Alors, aux parents de savoir que l'éducation commence d'abord à la maison, tout en rappelant aux élèves qu'ils ont leur destin en main.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, la divagation des animaux devient une préoccupation pour les paysans et les maraîchers dans la commune de Tessit, cercle d'Ansongo, région du Gao. C'est selon des sources locales, les dégâts que provoquent ces animaux dans les champs et les jardins de la localité sont fréquemment source de conflits entre éleveurs et agriculteurs. La coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale a fait ce mardi à travers sa coordination régionale un don aux détenus de la maison d'arrêt de Caille. Composé d'habits de pagne et de riz, cette assistance rentre dans le cadre du mois de la solidarité qui vient de s'achever. À Gao, l'Association pour la protection du droit des voyageurs et des migrants a animé ce mercredi une journée de sensibilisation sur la protection et la défense des droits des migrants. L'objectif, selon les responsables du regroupement, est de renforcer leur connaissance sur les droits des migrants. La rencontre a été financée par l'ONG Caritas Mali en collaboration avec la Maison du Migrant. Voilà qui met fin à cette édition présentée par Sikou Gadjigo, mise en onde Salim Djouara. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le magazine.